Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace le parcours de mes invités depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, j'aime ouvrir des voies, voies V-O-I-E-S, et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des chemins sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interview, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis, et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers, et surtout, abonnez-vous. Je suis heureux, grâce à Histoire de succès, de pouvoir offrir la parole à des personnalités que vous connaissez peut-être ou pas, et de leur donner l'opportunité de parler de sujets qu'ils ou elles n'ont jamais abordés dans un micro, en me racontant leur vie, leurs réussites, leurs échecs et les carrefours qui ont composé leur existence. Cette semaine, je reçois Laure Bouguen, qui est la fondatrice de la marque Ocaran, marque de produits de cosmétiques à base de chanvre. Dans cet épisode, Laure nous explique d'où lui vient sa passion pour le chanvre et vous entendrez pourquoi cette plante est à ses yeux primordiale et porteuse d'avenir dans notre 21e siècle. Elle explique aussi les différentes phases de sa vie qui l'ont amenée à créer sa boîte et les hauts et les bas qu'elle a vécu depuis sa création. Elle explique aussi le move de sa marque après le Covid alors que les finances étaient au plus bas et comment elle a changé d'état d'esprit pour avant tout prendre soin d'elle en tant que fondatrice. Laure est encore jeune, mais elle m'a bluffé par le travail qu'elle a pu faire sur elle depuis la création d'Ocaran, et je pense que vous devriez retirer des choses de cette discussion. Tant qu'à parler de prendre soin de soi, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que le podcast prend sa pause estivale à partir de la semaine prochaine. Je vous partagerai donc dès jeudi prochain et tout au long de l'été des rediffusions des épisodes que j'ai moi-même envie de réécouter, et peut-être même des contenus exclusifs tout au long de l'été. Je vous souhaite néanmoins un très beau mois de juillet et août. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter et à mon Insta sur @fabflorent, F-A-B-F-L-O-R-E-N-T, pour garder le contact. Je continuerai à vous écrire sur votre mail et à poster des trucs sur Instagram tout au long de l'été. Un grand merci à vous et bonne écoute en compagnie de Laure.
Ouais, et alors, c'est quoi ça?
L'huile stupéfiante.
Ouais.
C'est un de nos best-sellers, c'est un des premiers produits que j'ai sortis. C'est une huile hydratante pour multifonction. Donc j'essaye de faire des produits le plus holistique possible, ça sert à rien d'en avoir 15 dans sa salle de bain. Donc une huile hydratante pour la peau, les cheveux, la barbe. Donc le premier ingrédient, ça s'appelle Cannabis Sativa Seed Oil, si tu regardes la listing qui sur le produit. Donc c'est de l'huile de chanvre qui vient des graines, produite en Bretagne, bio évidemment. Et ouais, c'est un de mes produits phares.
Bah, merci beaucoup.
Je t'en prie.
Green packaging, papier de chanvre, flacon en verre, plastique recyclé, vegan, 0% THC.
Oui, ben ça, un jour peut-être on aura le droit et on mettra du THC dans les produits, mais pour l'instant on ne peut pas.
Tu vas me parler de tout ça, tu sais, parce que j'y connais strictement rien. Et on est avec Laure, donc, qui est la fondatrice de la marque Ocaran.
Bonjour Fabrice.
Comme vous venez de l'entendre. Laure est donc la créatrice de cette marque qui fait des produits à base de CBD. C'est comme ça qu'on
dit. Alors pour simplifier pour tout le monde, on dit juste CBD. En fait, le CBD, c'est une molécule du chanvre qu'on trouve dans la fleur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toute la plante, de la racine à la tige, en passant par les graines, en passant par la fleur. Donc on n'a pas forcément du CBD dans tous les produits. Par contre, on a du chanvre, de quelconque manière que ce soit, dans tous les produits.
D'accord. Tu vas m'expliquer un petit peu pourquoi cette marque, pourquoi le chanvre.
Ouais.
Et donc, on a été mis en relation par Marion Séclin.
Oui.
Pour les gens qui écoutent, on a fait un épisode avec Marion Séclin. Je vous invite à aller l'écouter, c'était fabuleux et tout. Et Marion t'a décrit en me disant « l'or et le CBD ». C'est-à-dire que l'or incarne la molécule. Et vous avez sans doute entendu dans le ton de l'or que t'es cool.
Oui, j'essaye. Ça m'arrive d'être stressée, mais le combat d'Ocaran, c'est de vraiment détruire le stress. Aider les urbains à sortir du stress grâce au cannabis, grâce au chanvre.
Et ça, c'est ta nature ou alors tu l'as taffé ?
Alors, c'est marrant parce que...
Juste pour dire ça, mais vraiment, t'es rentré... Donc là, on est chez moi. T'es rentré chez moi et j'ai vraiment eu la sensation de me dire « Il faut que tu descendes d'un ton, Fab. Il faut que tu cool down deux secondes. Il faut que tu te calmes. »
Mais en fait,
c'est ta nature, ça ?
Le stress, on le manifeste de plein de façons différentes. Moi, je n'extériorise pas beaucoup le stress. Les gens ne m'entendent pas monter le ton. Je ne suis pas quelqu'un qui va m'énerver, qui va mettre de la pression directement sur les autres. Après, le stress, je le prends quand même. Tu vois, j'ai fait 2 hernies discales en 2020.
Ah ouais.
Ben voilà, le stress, il passe quelque part. Donc
le corps, à un moment donné, il fait... Hey.
Voilà. Oh. Je pense que je suis aussi stressée, comme tout le monde. Ouais. C'est juste que je le manifeste pas pareil. Et c'est marrant, j'en discutais il y a pas longtemps avec des amis. Je crois que je me suis aussi construite en opposition. Moi, mes parents et mon père surtout est quelqu'un de très stressé et ça a le don de m'agacer profondément, donc je par opposition j'essaye de bien temporiser, ne pas mettre tout sur la même échelle, une petite cuillère qui tombe par terre, c'est pas aussi grave qu'un accident de la route, tu vois, essayer d'être calme. Donc voilà, le calme, c'est quelque chose qui est important pour moi.
Et donc ça, c'est ta nature.
Je veux dire, tu
t'as pas taffé sur toi pour en arriver là.
Non,
t'es comme ça depuis que t'es petite.
Bah après, je suis très active. En fait, je fais beaucoup de choses. C'est juste que j'essaye de le faire dans le calme. Mais toute la journée, les journées sont rythmées. Hein. Si tu regardes mon agenda, je mets des créneaux comme ça qui s'enchaînent toutes les demi-heures ou toutes les heures. Donc, c'est pas l'emploi du temps de quelqu'un de cool. Mais en tout cas, j'essaye de rester cool dans l'approche des choses.
Ma première question, tu le sais, c'est à quoi tu ressemblais, Laure, quand tu avais 7-8 ans? Je t'avais parlé qu'on allait parler de ta petite enfance.
Ouais.
C'est le moment.
J'étais très garçon manqué. Bon, j'aime pas l'expression garçon manqué, mais en tout cas, voilà, j'étais pas vraiment féminine. Je faisais du judo, j'aimais beaucoup courir. J'avais un grand frère et j'étais son assistante pour à peu près tout. Donc, je nettoyais ses fossiles, je montais sur les carrioles et il me lançait en bas de la route. Enfin, voilà, j'étais plutôt dans ce côté-là. Et j'ai eu la chance de grandir dans une petite ville à côté de Rennes. Donc, ma maison était vraiment au bord du bois. J'avais un chien, j'étais bien. J'aime bien être dans la nature, donc c'était très approprié.
Ils devenaient tous ce côté garçon manqué, comme tu dis.
Je pense que j'essayais de copier mon frère. Je pense que c'était ça. J'étais en admiration devant lui. Et puis, j'ai toujours été très sportive. J'adore ça. Donc, moi, courir partout et mettre les mains dans la terre, ça m'allait bien.
Encore aujourd'hui ou...
Alors, c'est marrant parce que la céramique, j'arrête pas de dire, je veux faire un atelier céramique.
Ah, c'est un peu le truc du post-confinement, j'ai l'impression, la passion céramique pour plein de gens.
Mais moi,
à Paris, hein, pardon.
J'ai pas été très douée de mes doigts et je sais pas peindre, je sais pas dessiner. Je suis vraiment pas quelqu'un qui est dans la finesse. Mais alors, aller faire un bol, c'est quelque chose dont j'ai très envie. Et comme là, je passe pas mal de temps au Portugal et à la céramique à Lisbonne, il y en a partout. J'ai essayé plusieurs fois de prendre des cours et c'était entre le confinement, les vacances, tout ça. J'ai jamais pu faire un bol. Mais je vais faire mon bol de céramique bientôt. Je serai contente. Pour Karen, là, je voulais faire des bougies. J'ai dit à sa mère, c'est un consultant avec qui je travaille. Je lui ai dit, c'est moi qui vais faire les pots de toutes les bougies. Il m'a regardé, il fait oui, bien sûr. C'est ça, tu vas aller les acheter comme tout le monde.
Parce que tu l'as noté là, mais en fait, l'une de tes particularités dans ta vie, c'est que t'as pas de maison.
Voilà.
Tu me disais.
Ouais, en fait, j'ai vécu pendant très longtemps seule. J'habitais à Nantes, dans mon appartement. Et au premier confinement, en fait, cette solitude a été salvatrice parce que à l'époque, j'avais un bureau à Nantes, un bureau à Paris avec des équipes dans les deux villes et je passais ma vie à faire des allers-retours. Donc, être posée chez moi pendant plus de 3-4 jours, c'était assez exceptionnel. Donc, ça m'a fait du bien de me poser et je me suis rendu compte que, en fait, j'avais absolument plus envie d'être à Nantes.
Okay.
Comme j'ai fait mes études à Audencia et que j'ai monté ma boîte pendant mes études,
l'école de commerce de Nantes.
Ouais. Et ben, même si en cumulé, j'ai fait des stages ailleurs et je suis allée en Erasmus, mais j'avais quand même fait presque 10 ans à Nantes et je me suis dit, est-ce que je vais vraiment passer les 10 prochaines années de ma vie ici? J'avais l'impression de rien avoir construit et ce qui m'a terriblement manqué, c'est la mer. J'avais besoin de voir l'eau. Et du coup, je me suis dit, dans quelle ville je peux partir vivre? J'étais fait une liste. J'avais fait un tableau Excel avec des critères en fonction de la météo, de la densité de population, du prix au mètre carré. J'ai un petit problème parfois sur les tableaux Excel. Et dedans, il y avait que des villes en France parce que je voulais être à 3 heures de train de Paris, mais je vais souvent à Paris. Et en septembre, et donc j'ai testé Marseille par exemple cet été, que j'avais bien aimé, mais j'avais pas forcément envie de bouger là-bas. Et en septembre, un entrepreneur m'a dit, bah moi je vis entre Lisbonne et Paris, et j'ai trouvé ça super cool. Je suis allée tester un espèce de co-living à Lisbonne, et j'ai dit à tout le monde, je pars m'installer à Lisbonne. Donc, c'était en février, j'ai rendu mon appartement, j'ai fait 2 valises en me disant, il faut que je tienne tout dans 2 valises, et je vais vivre dans un espace de co-living à Lisbonne. Et en fait, il me restait des billets d'avion pour la Croatie. L'année dernière, je devais y aller avec des copines. Elles n'étaient pas dispo, j'y suis allée toute seule. Et en voyageant, je me suis dit, mais alors pourquoi aller à Lisbonne alors que j'ai deux valises et que je peux aller partout? Et voilà, donc je me suis dit, ok, je me fais un an où je découvre plein d'endroits. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec mes amis sur les 6 dernières années parce que j'étais un peu focus sur ma boîte. Donc, ils m'invitent du coup parce que j'ai pas d'appart. Et en fait, ça crée plein de nouvelles opportunités et ça m'oblige à moins travailler parce que quand tu es chez des gens, à un moment, il faut passer du temps avec eux. Et puis, quand tu es dans un super endroit au bord de l'eau, 18h, 19h, tu as envie d'aller au bord de la mer, tu n'as pas envie de rester bosser. Donc, ouais, c'était assez salvateur.
On en reparlera un peu après, mais tu disais juste avant l'enregistrement que tu étais un peu esclave de ta boîte et que tu avais tenté de sortir de ça. J'imagine ouais. que ça,
ah bah ça
fait partie de ce move. Quoi.
Ça a beaucoup aidé, ouais.
Ok. Donc, tu n'as plus que deux valises dans ta vie.
J'exagère un tout petit peu quand je dis ça, parce que mes parents, j'ai laissé quelques affaires chez eux. Donc, c'est un peu mon spot si je dois aller chercher une tenue d'hiver. Ou, voilà, j'ai pas tout, tu vois, je ne peux pas balader mes affaires de ski dans ton deux valises de tout l'été avec ma doudoune. Donc, non, j'ai laissé quelques trucs chez mes parents, mais vraiment des fringues, quoi.
Ok. Donc, tu n'as plus d'affaires. Enfin,
non. Mais après, je ne possédais pas grand-chose parce que j'ai créé au Caran alors que j'étais étudiante et que je l'avais fait avec un emprunt étudiant. Je n'ai jamais beaucoup possédé de base. Donc, je n'avais pas grand-chose à me délester.
Est-ce que tu as toujours voulu devenir entrepreneuse?
Non, je ne pensais même pas que c'était pas un plan de carrière du tout.
Pourquoi tes parents?
Alors, mon père est à la retraite, mais il était cheminot. Okay. Sur toute la partie, il travaillait sur le pôle entretien des voies.
Okay.
Et ma mère est téléconseillère dans les assurances. Vie simple.
Assez loin de l'entrepreneuriat, alors.
Très loin de l'entrepreneuriat. Alors, mes grands-parents étaient agriculteurs et ont cultivé du chanvre. Et donc, on en parlera peut-être après, mais le chanvre n'est pas venu de nulle part. Donc, c'est une forme d'entrepreneuriat, l'agriculture, quand même. Mais disons que j'étais pas destinée à faire ça et moi j'avais un peu ce syndrome de la bonne élève. Je voulais rentrer dans la case et faire bien comme il faut. Donc j'ai toujours été première de ma classe, toute ma scolarité. J'ai fait une classe préparatoire et parce que mes profs m'y ont poussé en fait. C'était pas, enfin moi je savais pas ce que c'était une classe prépa quand j'étais en terminale. Mais on disait si Laure elle y va pas, qui ira? Donc je me suis dit ok, j'y vais. Mais en fait j'avais pas très bien réfléchi à ce que c'était ce que j'avais envie de faire ou pas.
C'est un peu le drame de l'école, c'est que t'es sur des rails.
Et j'ai atterri après à Audencia à Nantes. Et là, en fait, c'est vrai que je me souviens à l'entretien, on me demandait qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Et je disais que je voulais travailler dans la production artistique. Moi, j'avais fait beaucoup de danse et je fais partie d'une compagnie de danse. Et à défaut de pouvoir être danseuse, je voulais mettre en lumière les artistes. Et ensuite, ou travailler dans les défilés de mode, ce genre de choses. Mais vraiment, je n'avais pas intellectualisé que moi, je pourrais être capable de créer une entreprise, parce que, je sais pas, financièrement, en termes de compétences, il n'y a rien qui me semblait... Pour moi, la vie, c'est le salariat, quoi. C'était ça, la manière dont je l'avais pensé. Et en fait, en deuxième année d'Audencia, on avait un cours d'entrepreneuriat. Et je sais pas, je dis à tout le monde, j'ai une super idée. On va faire une marque de soins au chanvre qu'on va mettre en pharmacie. Je l'avais appelée Tetra Paris Soins, Tetra comme tétrahydrocannabinol, le THC, alors qu'il n'y a pas de THC dans les produits, mais bon, voilà, j'avais packagé un truc. Et tout le monde était très content que je m'occupe de faire ce business plan, parce que c'est super chiant les projets de groupe en école.
C'était un projet d'études, donc?
Ouais, projet court d'entrepreneuriat. On devait monter un business plan d'une entreprise.
Ça devient d'où, cette idée?
Alors, en fait, donc moi, le chanvre, je sais exactement ce que c'est. Moi, mes grands-parents cultivaient pour la tige, qui était transformée en papier avec un perlé. Donc, c'est pour ça que les cartons avec lesquels on travaille, c'était important pour moi que ce soit du carton de chanvre. Et en fait, chanvre cannabis, c'est exactement la même plante. Et en fait, tous les préjugés autour du cannabis, j'ai toujours trouvé que c'était dommage qu'on se limite à ça, parce que derrière, t'as tout un champ des possibles en cannabis médical, en bien-être, en industriel, on fait de l'isolation, enfin, on fait un nombre incalculable de choses. Donc, le côté injustice, il y a une plante qui n'est pas comprise, alors que c'est une pauvre plante, elle n'a rien demandé. Il y avait un truc que j'avais envie de défendre.
La justice autour du chanvre. C'est marrant.
Et puis elle est cool cette plante, tu vois, elle a quelque chose de... Et elle nous permet de mieux consommer, de mieux produire, donc voilà, j'étais vraiment intéressée par elle. Et j'avais vu un reportage quand j'avais, 16-17 ans, que j'étais encore au lycée, type zone interdite ou très Bernard de la Villardière, d'une petite nana en Californie qui faisait des shampoings dans son garage avec du cannabis, et il y avait ses parents qui travaillaient avec elle, enfin elle avait embauché toute la famille, tu vois. Et ça m'avait marqué, j'avais trouvé que c'était vraiment cool, enfin ce côté projet familial.
Ok. Donc il y a quand même un truc d'entrepreneur là.
Là, je me suis dit, ah ouais, moi aussi j'aimerais bien faire des shampoings au chanvre. Mais je m'étais pas dit je vais le faire. Mmh. Et là, je sais vraiment pas comment ça m'a retraversé l'esprit, mais au moment où on nous propose ça, je dis on va faire des soins aux chanvres. Et on présente le projet, enfin en tout cas moi je présente quelque chose, et le prof il était là genre mais n'importe quoi, enfin, vraiment aucun intérêt, tout le monde était déjà sur des trucs un peu tech, un peu futuriste, et là on venait avec notre vieille plante et on en faisait des crèmes, tu vois, il voyait vraiment...
C'était quand c'était
C'était 2012-2013.
Donc très en avance sur... parce qu'aujourd'hui c'est un peu devenu, excuse-moi, mais la mode, hein, vraiment.
Ouais, mais en fait c'est la mode du CBD, mais pas vraiment du chanvre au sens... Ouais.
Tu m'en reparleras après parce que je sens qu'il y a un truc et j'y connais rien et je sens que tu vas m'expliquer.
Et du coup, le fait qu'ils rejettent le projet, ça a créé une grande frustration en moi. Et ensuite, j'étais en stage à Paris. Je faisais un stage dans une agence de design dans le Marais qui était spécialisée dans la cosmétique, les spiritueux. Et ils m'ont raconté qu'à l'entretien, je leur ai dit que je voulais lancer une marque de chanvre. Mais je n'avais pas du tout le souvenir. Et pendant ce stage, il y a le move.
Mais attends, mais... Tu vas dire en entretien que tu veux lancer une marque de chanvre
Ouais,
et t'oublies.
Ouais, qu'en gros, j'étais là genre, moi, potentiellement, peut-être ce qui m'intéresse dans la cosmétique, ce serait de lancer plus tard une marque de chanvre, mais enfin, je ne me pensais pas encore capable à ce moment-là. Et ce qui m'a vraiment déclenché le truc, c'est le MOVJ, le mouvement des jeunes entrepreneurs. C'est une association, ils font des appels à projets tous les ans. Et du coup, j'avais représenté le business plan en disant, attends, il s'est fait retoquer, mais il y a des professionnels entrepreneurs qui vont le regarder. Il s'est fait retoquer une nouvelle fois, mais ils m'ont invité à la Gaîté Lyrique, à un événement. Et donc, tu avais Arnaud Le Gall, ancien rédacteur en chef des Échos, qui était sur scène, avec plein de gens. Donc, tu avais les fondateurs de Fago, la fondatrice de Marlette, les préparations gâteaux et tout. Et il était là, voici le futur, voici l'entrepreneuriat de demain, c'est eux qui vont construire le monde de demain. Et j'étais là, ouais, enfin, ça reste des baskets et des préparations gâteaux, alors que le chanvre, on pourrait vraiment faire quelque chose. Et je me suis dit, si eux, ils peuvent le faire, moi aussi, je peux le faire, tu vois. D'où l'importance des rôles modèles. Et donc c'est pour ça que j'essaye de raconter l'histoire le plus souvent possible, parce que il faut voir quelqu'un et se dire attends, si Laura peut le faire, moi t'inquiète, je le fais, tu vois, il n'y a pas de souci. Et donc là, ça y est, je me suis mis en tête, je crée mon truc, j'ai fait un deuxième stage, je voulais faire un stage en fonds d'investissement pour comprendre un peu comment fonctionnent les business models et la finance, parce que j'étais vraiment nulle en finance, et finalement je me suis retrouvée chez Chanel en finance à faire du contrôle de gestion, et c'était très bien. C'est là où la passion des tableaux Excel est née, vraiment. Et puis voilà, après, je me suis retrouvée avec eux à Dubaï, parce qu'il y avait le défilé Paris-Dubaï, il fallait quelqu'un sur leur gars, et moi qui voulais faire la production artistique et des défilés de mode, finalement j'en ai fait, et j'ai trouvé ça horrible. Et ça m'a beaucoup donné envie de revenir à Nantes, au calme, au vert, dans une ville chouette, de mettre en avant le chanvre breton, tu vois, de revenir à l'essence de quelque chose.
C'est la première fois que tu dis breton depuis le début de cette interview, et je te salue, tu sais, parce qu'en général, les bretons, quand ils disent qu'ils sont... Ils disent à peu près seconde 2 qu'ils sont bretons.
Au Caran, c'est « je vous aime » en breton.
Alors... Ça fait 15 minutes qu'on enregistre, okay. Bravo.
J'ai le Gwenadou dans le sac, le drapeau breton, t'inquiète, je vais
c'est
le caler.
C'est peu étonnant. En permanence, dans ma valise, j'en ai que deux valises, mais j'ai
un drapeau breton.
C'est très important. Ok, d'accord. Donc, tu as vraiment ce truc, tu as développé cette obsession, en fait, pour le chanvre te vient de tes grands-parents, alors.
Ça, plus toutes les autres choses qui sont arrivées. Eux, ils n'étaient pas obsédés, ils faisaient de l'agriculture qui était très raisonnée. C'est-à-dire que tu ne fais pas de la monoculture ni du mono-élevage, tu fais plein de choses. Et on l'a un peu perdu. Donc, eux, le chanvre, c'était une culture parmi d'autres.
Okay.
Mais moi, je suis devenue maniaque de ce truc-là, quoi.
Et ça vient d'où ?
Parce que je pense vraiment qu'on va dans le mur, dans la manière dont on consomme et produit. Là, tu vois, les capots de nos produits, ils sont en plastique recyclé. Mais en fait, on travaille sur une solution en plastique de chanvre. Ça serait du plastique qui serait beaucoup plus... il est quasiment biodégradable. Donc, il y a les flacons, évidemment, qui sont en verre. Le carton, la première bible était en chanvre. Et les cartons en carton aussi. C'est une plante qui ne demande quasiment pas d'eau, peu d'intrants.
T'as dit la première bible est en chanvre.
Ouais, Gutenberg, il a imprimé sur du chanvre. Et le papier bible, c'est du papier chanvre.
Oh là là. Ouais, c'est...
Pourtant, Dieu sait que je suis pas religieuse. Mais... mais je trouve que là, la religion catholique a compris un truc. Et le chanvre, on peut vraiment le manger. Enfin, tu vois, les graines, il y a plus de protéines dans 68 grammes de graines de chanvre que dans 100 grammes de viande. C'est une super. Le niveau oméga 3, oméga 6 est très optimal. Donc, pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire, enfin, c'est vraiment, tu le manges. Il y a une phrase en anglais qui dit hemp c'est chanvre. is the only plant that can heal you, house you, clothe you and feed you. Donc c'est la plante qui te nourrit, qui te loge, qui te vêtit, qui te soigne. Et c'est vrai, et le truc c'est que quand tu mets le doigt dans le champ, après tu deviens passionné. Enfin, tous ceux qui travaillent dans le secteur, ils sont mais omnibulés par ça. C'est pour ça que quand on limite la plante de chanvre au THC ou au CBD, bon, bah, je comprends, c'est par là qu'on rentre, mais ça, j'ai envie de montrer aux gens qu'il y a plus que ça, quoi.
Mais alors, pourquoi on la diabolise à ce point-là ?
Alors là, on pourrait faire un podcast d'une heure, mais il y a plusieurs raisons. Tu as des raisons économiques. Donc, tu as une société qui s'appelle Dupont de Nemours aux États-Unis, qui était une grosse société industrielle, qui ont des intérêts dans le pétrole, donc qui fait du nylon notamment, qui ont des intérêts dans des nouveaux matériaux. Et le chanvre, en fait, il servait à tout. Donc, tu n'as pas trop d'intérêt à ce que le chanvre soit vraiment popularisé. Donc, petit à petit, ils ont commencé à installer d'autres façons de produire, d'autres façons de consommer, et puis ils ont mis des taxes sur le chanvre. Tu as une raison sociologique, politique, qui est du racisme pur et simple. C'est qu'en gros, il faut se dire que tu es au début des années 30, la ségrégation noir-blanc, elle est quand même prégnante. Et du coup, ils disent bah voilà, la marijuana, déjà, on commence à l'appeler la marijuana, c'est la drogue des porto-américains, des afro-américains qui vont faire du jazz, qui pervertissent les femmes blanches. Donc, tu as des films de propagande. Tu as Reefer Madness, par exemple, qui est un film de propagande complètement hallucinant si tu le regardes aujourd'hui, où tu penses que c'est une parodie, mais ce n'est pas du tout une parodie, où ils te montrent vraiment que ces populations-là immigrées vont pervertir les blancs à cause de la marijuana, quoi. Donc, tu as ce truc-là qui arrive derrière. Et donc, petit à petit, le chanvre, similé cannabis, tout est mélangé. Et avec la Convention des Nations Unies de 1961, ça passe en stupéfiant. Et il n'y a que deux pays qui refusent d'arrêter complètement la culture du chanvre, c'est la Chine et la France. Donc c'est pour ça que la France est encore aujourd'hui le premier producteur européen, mais avec 17 000 hectares. Donc c'est complètement anecdotique à l'égard de toutes nos cultures. Et là, on est en train de se faire rouler dessus par les Américains qui maintenant ont compris que finalement le chanvre, c'est intéressant, qu'ils le remettent au goût du jour. Et donc, États-Unis, Canada sont en train de nous doubler en termes de production. Puis la Chine, là, ils sont en roue libre. Ils écrasent tout le monde. Donc c'est une culture qui était vraiment très intéressante, qui va revenir. Mais on est passé par ce truc de cannabis. Et puis alors, nous aussi, on a une vraie histoire avec les colonies en France. Souvent, le hashish, ils disent c'est le petit marocain. Donc ouais. Voilà, t'as le vin rouge, fantastique. C'est nos fiers vignerons. On en fait des vins, des millésimes, des choses comme ça, mais par contre le cannabis c'est cette horrible plante des colonies, tu vois. Il y a aussi ce fond de racisme là chez nous qui est assez fort, donc on a du mal à franchir le pas et à se dire ah non, finalement le cannabis c'est intéressant. Donc on dit chanvre parce que ça fait plus poli, ça fait gentil le chanvre, mais ouais. En fait c'est du cannabis sativa qu'on cultive en France.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-cinés, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Et donc, à quel moment tu décides de passer le cap ?
En fait, je ne m'en suis pas rendu compte. quand je suis revenue à Audencia, je suis revenue en 2014, j'étais en majeur entrepreneuriat. J'avais pris spécialité entrepreneuriat.
Et donc déjà, c'est que tu avais envie de monter ta boîte ?
Là, c'était sûr.
Tu ne t'es pas rendu compte ?
C'est que j'ai dit mon projet de fin d'études, je vais me spécialiser dans l'entrepreneuriat. Au pire, si tu ne montes pas ta boîte, tu peux accompagner des entreprises, tout ça. Okay. Et donc, le premier cours, on devait pitcher des projets pour ceux qui en avaient. Et puis, tu avais 4-5 étudiants qui te rejoignaient. Donc moi, j'ai pitché au Caran. À l'époque, c'était marque de soins pour hommes au chanvre. Parce que j'avais été assez dégoûtée de la cosmétique féminine quand j'avais bossé dans le secteur, très, très anxiogène, tu vois, le jeunisme, les injonctions à la beauté, tout ça, ça m'avait saoulée.
Et tu te disais pas à l'époque qu'il y avait une possibilité de créer une alternative, justement ?
Ah bah ça, on me l'a expliqué après, mais sur le coup, je m'étais dit, ah ouais, non, j'ai même pas envie de mettre le doigt dedans, les mecs, c'est plus sympa, plus fun, tu vois, toi t'as monté un média pour les femmes, moi j'avais monté une marque pour les hommes. Et du coup, il y a 4 étudiants qui ont bossé avec moi pendant 4 mois dessus. Puis après, on a un stage de fin d'études. Donc eux, ils sont partis en stage de fin d'études. Et moi, j'ai fait un stage dans ma propre entreprise. Je me suis signé ma convention de stage. Et à l'époque...
Donc, t'avais créé ta boîte, en fait.
Bah alors, en fait, non. Là, à ce moment-là, je ne l'avais pas encore créé, mais j'ai créé une convention. Il venait de créer un statut qui s'appelait étudiant-entrepreneur.
Ah oui. Bah,
du coup, voilà, j'ai chopé ce truc-là. Et puis, quelques mois après, en mai 2015, j'ai créé la structure, parce que là, on avait lancé la R&D avec des labos, et donc j'avais besoin d'une structure pour...
facturer, voilà. Etc., etc. Ok.
Alors, j'aurais aimé commencer par facturer, mais moi, j'ai commencé par dépenser de l'argent. J'ai beaucoup dépensé avant de facturer qui que ce soit. J'ai toujours pris les choses dans le mauvais ordre.
Et t'as financé ça comment ?
Ah voilà, alors là, en vrai, j'ai créé une pyramide de Ponzi. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un emprunt étudiant, parce que j'avais toujours le statut étudiant. Donc, c'était 25 000 euros, j'avais mis 15 000 au capital, j'en ai gardé 10 pour vivre pendant, ça m'a tenu 2 ans. On peut vivre avec 10 000 euros pendant 2 ans, mais on vit très 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 très, très mal. J'avais eu une bourse, heureusement, qui m'avait un peu aidée. Donc avec ces 15 000, je suis allée chercher des prêts d'honneur, donc c'est des prêts auprès de la région, parce que j'avais Initiative Nantes et Initiative France Remarquable, projet éco-responsable, tout ça.
Il y en a, enfin on peut le dire aux gens, il y en a plein des initiatives régionales comme ça qui filent des...
J'avais demandé le réseau Entreprendre à la base, mais ils avaient estimé que mon projet était trop petit, que je n'avais pas créé assez d'emplois, etc. Donc, je n'avais pas eu réseau Entreprendre, mais c'est le même délire. Avec ça, j'ai eu 40 000 euros. Et donc là, je suis allée voir la banque et j'ai dit, hey, j'ai 40 000 euros de capital, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent ? Et bon, je le fais en version très simplifiée, mais je me suis fait dégager de tout le monde. Sauf à la fin, genre tes prêts d'honneur, ils ont 6 mois pour être activés. Il faut que tu trouves un emprunt bancaire. Si tu n'as pas d'emprunt bancaire, tu n'as pas les prêts d'honneur. Et quelques jours avant la fin, j'ai eu le Crédit Mutuel de Bretagne.
Once again.
Qui m'a soutenue. Ah ben, un gros coup de bluff. En fait, j'avais la BNP était intéressée parce qu'en parallèle de Ocaran, j'avais aidé à monter le Match-up. C'est une association d'étudiants pour promouvoir l'entrepreneuriat et tout ça. Donc, j'étais présidente du Match-up à Nantes et donc j'avais un tout petit peu de visibilité. La BNP était notre sponsor. Donc, ils avaient envie de me soutenir, tu vois, mais juste qu'ils demandaient que mon père soit caution de l'emprunt. Et ça me semblait complètement, enfin, c'était pas possible. Déjà, il était caution de mon prêt étudiant parce qu'on n'avait pas eu le choix. Donc là, ça me semblait pas possible. Et
c'est dramatique quand même. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais à quel point les banques jouent plus leur rôle de prendre des risques, en fait, avec les entrepreneurs.
En même temps, la nana, elle sort de nulle part. Elle a 23 ans. Elle n'a pas d'argent.
C'est leur job en tant que banquier, quoi. Tu vois, il y a un vrai truc dramatique et l'une des raisons pour lesquelles. Bah, aujourd'hui, les banques jouent plus leur rôle, je trouve. Je fais un peu le vieux con, mais qu'en fait, les entrepreneurs vont chercher des VC ou vont chercher des capitaux extérieurs, etc. Et donc finissent par, là on rentre un peu dans la technique, mais par diluer leur boîte, par se diluer dans leur boîte, c'est-à-dire de filer des capitaux à des gens extérieurs qui viennent juste leur apporter, entre guillemets, juste du fric et sans doute un peu d'expertise, etc. Mais les banques ne prennent plus de risques.
Bah, j'ai été voir des business angels à Nantes, mais tu vois, c'est des mecs qui ont 50, 60 ans. Après ils m'ont dit un truc ça, on revient avec du chiffre d'affaires et puis on te financera. Sauf que pour faire du chiffre d'affaires j'avais besoin de faire des formules, d'acheter des packs, la cosmétique. J'avais aussi pris un peu l'Everest face nord, c'est que ça demande beaucoup beaucoup de capitaux, il faut pas se leurrer là-dessus. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que j'avais été invitée à intervenir une boîte à Nantes, à Rennes, dont j'ai oublié le nom, c'est Digitaleo, à intervenir chez eux pour parler d'entrepreneuriat étudiant, tout ça. Et j'ai bluffé, il y avait le responsable de la Com Bretagne, du Crédit Mutuel de Bretagne qui était là, et j'ai dit oui, bon, j'ai un emprunt avec la BNP qui arrive et on va pouvoir tout lancer et tout. Et il est venu me voir, il fait pas du tout, on va pas laisser la BNP vous financer, vous êtes bretonne, c'est une marque bretonne, je m'en charge. Et donc 3 jours après j'avais mon emprunt.
T'es un petit génie.
Ah non, mais je pensais pas qu'il allait me dire ça. C'est juste que moi, j'ai passé ma vie à bluffer sur la boîte. J'ai toujours dit qu'on faisait des trucs alors qu'on les faisait pas encore vraiment. Et donc, tu vois, c'est pas que tu mens, c'est que t'anticipes. T'es dans le futur un peu.
Ouais, puis surtout, je crois que la preuve, t'as besoin de faire ça pour convaincre les gens et ça prouve aussi que t'es convaincu toi-même.
Ouais, moi, je suis très convaincue.
En fait, il y a rien besoin d'autre. Je crois qu'un entrepreneur qui est convaincu, en fait, c'est un entrepreneur qui va faire en sorte de créer le projet, quoi, tu vois, de le mettre en place. Donc c'est ça que tu fais en fait avec ce mec, c'est que tu lui montres juste que tu vas le faire. Quoi.
Moi je m'étais dit on trouverait toujours une solution au pire avec la BNP, enfin, dans ma tête il y a toujours des solutions plus que des problèmes, donc je m'étais dit on va y arriver. Et donc voilà, j'ai lancé en gros à 90 000 euros, Et ensuite, j'ai commencé à rembourser la dette avec de la dette. Et ça, ça a été un sacré...
T'as commencé à rembourser de la dette avec de la dette?
Ouais.
Ok. Là... C'est comme ça que la France fonctionne, hein.
c'est vrai que je suis très inspirée par notre gouvernement.
Pas que nous, hein, plein d'autres pays.
Mais bon, là, ça a commencé à être très compliqué. Et du coup, j'ai fait une première levée de fonds en 2017 avec des entrepreneurs, majoritairement des business angels.
Ok.
Et là, on a vraiment tout pivoté. En gros, à ce moment-là, je m'étais rendu compte que l'homme, j'allais dans le mur. Que moi, ce qui me passionnait, c'était l'innovation autour de la plante. Et le cosmétique homme, c'est de l'usage. Et donc, il fallait repartir à zéro d'une feuille blanche. Et là, il fallait que je fasse un write-off, quoi. Donc, heureusement, ils m'ont suivi là-dedans. Et en fait, c'est un ami, donc Antonin Cohen, qui a monté Canavap, qui était la première cigarette électronique au CBD en 2014, donc quelqu'un à qui on a monté ensuite le syndicat du chanvre, qui m'avait dit « Mais attends, mais alors si t'aimes pas la cosmétique pour femmes, mais propose autre chose, quoi. » Et en bossant pour des laboratoires, je me suis rendu compte que c'était les mêmes... Franchement, c'est les mêmes crèmes, c'est juste que tu changes le prix, le packaging et le parfum. Sinon, c'est les mêmes. Donc je me suis dit « On va pas faire de la cosmétique femme, on va faire de la cosmétique mixte. » En fait, c'est ça. Enfin, unisexe, agenré. Il n'y a pas de genre dans la cosmétique, finalement. Ce qui compte, c'est les peaux sont vraiment très semblables.
Oui.
Donc...
Et surtout, bah, peut-être, c'est le problème un peu, c'est que, tu vois, les bonhommes, il faut mettre un peu moins d'odeur, oui, quoi, tu vois, parce que sinon, si tu sens un peu trop le parfum, t'es plus vraiment un bonhomme, quoi.
Ouais, et puis même les femmes, hein, souvent, on avait des retours de distributeurs, là, ça commence à se calmer un peu, mais des gros distributeurs connus en France qui nous disent... Ah oui, c'est pas très féminin quand même, c'est pas très... ça sent pas la rose et la vanille, c'est sûr, ça sent les terpènes de cannabis. Donc on n'est pas sur la même démarche. Mais les hommes aiment aussi beaucoup, et c'est juste, voilà, il y en a pour tous les clients.
Bien joué.
Donc j'ai tout relancé, ça nous a pris un an de tout refaire quand même, et en tout j'ai fait trois fois les formules, trois fois les packs. Chaque fois j'ai changé un peu de positionnement, et donc à chaque fois j'ai été chercher des financeurs. Et donc au bout d'un moment, bah, la boîte elle t'appartient plus trop, quoi, quand t'es obligé tout le temps aller chercher les gens pour le faire. Donc ça a mené à plein de choses, mais aujourd'hui, on est dans une phase où j'ai réussi un peu à faire le point avec certains investisseurs et ne garder qu'une poignée d'entre eux, et moi récupérer aussi une partie de ma boîte pour me ressentir chez moi de nouveau.
C'est une bonne idée, hein. C'est un vrai conseil qu'on peut donner aux jeunes entrepreneurs et aux jeunes entrepreneuses. Gardez votre capital,
ouais, après,
le
ça,
plus possible.
Ça dépend ce que tu veux faire. Tu
Bien
vois,
sûr.
Moi, j'avais pas... En fait, c'est que, voilà, à un moment, il y a des gens qui sont rentrés en se disant bah, peut-être que ce sera la marque qui sera dans tous les Sephora du monde et qui fera des milliards de chiffres d'affaires. Et en fait, non, moi, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Du coup, dès que tu as un désalignement sur la grosseur de la boîte, ça peut plus fonctionner. Et moi, je suis dans une démarche un peu plus patrimoniale. Non pas que je veux que ce soit qu'elle m'appartienne financièrement, mais de dire on construit les choses avec le temps, on intègre petit à petit toute la chaîne de valeur, on fait les choses proprement, le plus écologiquement possible. Et donc, c'est un peu antinomique avec le fait d'être sur une distribution de masse internationale.
Ce qui t'empêcherait pas à terme de l'être.
Non, c'est que tu lèves beaucoup de fonds si tu veux une vraie célérité, si tu veux écraser tout le monde en étant le premier. Or, comme j'ai vraiment à cœur qu'on fasse les choses de manière la plus écologique possible, ça marche pas avec un capitalisme un peu véloce, quoi.
Ok, je comprends. Et t'as trouvé ça toute seule, alors que tu viens d'avoir 30 ans.
Je viens d'avoir 30 ans. J'ai trouvé ça en me prenant beaucoup de murs. En tombant beaucoup, en me faisant deux hernies discales. J'ai trouvé ça. Oui.
C'est ouf, ça, ton corps, il fait des hernies discales. C'est chaud quand même, être en pige.
J'ai des problèmes j'ai fait beaucoup de danse, gym. J'ai des problèmes de dos j'ai mal au dos depuis longtemps. Je me souviens quand on faisait 6-7 heures de danse dans la semaine, j'avais mal au dos plus jeune. Mais ça ne m'empêchait pas d'avancer, quoi. Et à partir du moment où j'ai monté ma boîte, j'ai fait mes premiers lumbagos. Où là, vraiment, genre, tu ne peux plus te lever, quoi. C'est très compliqué. Et là, j'avais sur la fin 2019, j'avais une très grosse pression financière. Je savais plus. Enfin, moi, j'ai jamais eu beaucoup de cash. Donc, ça m'arrivait souvent à deux mois ne pas savoir comment je paye mes salariés, tu vois. Et quand c'est tout le temps comme ça, en fait, on n'a jamais. Et ça, je pense, honnêtement, c'est pas pour victimiser, mais parce que je suis une nana jeune, j'ai jamais réussi à avoir des grosses levées de fonds. J'ai toujours eu des petits bouts, tu vois, genre, ah, alors elle est mignonne, on va lui donner un peu d'argent. Des fonds d'investissement qui te filent des micro-tickets de 100, enfin des micro-tickets, ils filent 100 000 euros, en fait, pour un fonds qui, normalement, investit 1 million, tu développes, t'avances, quoi. Mais sauf qu'on te demande, avec les 100 000 euros, de faire pareil que la marque a eu 1 million. Donc, en fait, t'es toujours dans une démarche de courir après l'argent, d'aller supplier les gens, de croire en toi, de machin. Et donc, ça m'a épuisée. Et puis, sans cofondateur, donc, tu vois, t'es
toute seule.
t'es le nez dans le guidon et sur tous les tableaux en même temps. Et donc, je me suis vraiment épuisée. Mais moralement, j'avais toujours, j'étais bien. Je me dis, voilà, je m'amuse très bien, je continue. Mais je pense qu'avant, physiquement, j'étais plus trop là, quoi.
Et c'est une question très, très, très naïve, hein, que je te pose. Mais tu crois pas aussi qu'il y a un moment donné où t'as ton propre rapport à l'argent, tu vois, qui rentre aussi dans ta capacité à aller chercher 1 million plutôt que 100 000.
Ah, mais bien sûr. En fait, il y a plusieurs choses. Quand j'ai fait ma première levée de fonds en avril 2017, ça faisait 2 ans que je ne me payais pas, qu'il me restait plus rien. J'avais eu une bourse avec Audencia et je les en remercie encore, qui m'avait permis de tenir un peu, mais j'avais vraiment plus de thunes et je vivais en dessous du seuil de pauvreté, quoi. Donc, et en même temps, on te demande d'avoir des ambitions très élevées. Donc là, ouais, déjà, t'es dans un truc qui est un peu malsain. Et il y a un investisseur qui a mis 15 000 balles chez moi, donc tu vois, vraiment, il a pas fait ma vie, quoi.
Peanuts.
Premier board, je demande donc à être rémunérée, parce que ça faisait longtemps que je me rémunérais pas, et je demande 1 900 euros, sachant que je remboursais 600 euros d'emprunt étudiant par mois. Donc je demande à vivre avec 1 300 euros. C'est pas Crésus non plus, tu vois, j'ai conscience qu'en France, le SMIC est dans ces eaux-là, mais bon, quand même. Et en gros, il dit, est-ce qu'on n'aurait pas plus de valeur à payer un agronome que l'or, quand même?
Il dit ça,
voilà,
devant toi?
Devant moi, devant tout le monde, tranquille, tu vois. Et en fait, là, je me suis mis en tête que j'avais pas de valeur, tu vois. Parce que si on te... Enfin, ils m'ont nié ma valeur. Et le truc, c'est qu'il y avait des gens, pourtant, à qui j'avais confiance. Ils étaient là, ils se sont pas battus. Enfin, tu vois, ils ont dit, oui, bon, quand même, on va être obligé de la payer, parce que sinon, la boîte, elle ferme. Mais personne s'est battu pour dire, mais vraiment, c'est odieux de dire quelque chose comme ça. Évidemment, Clore est la personne qui a le plus de valeur dans la boîte. Enfin, voilà. Et donc, ça m'a beaucoup abîmée. Parce que c'est ton estime. En fait, j'ai toujours eu confiance en moi. Et c'est pour ça que j'avance et j'ai une bonne confiance en moi. Mais là, j'ai eu un vrai problème d'estime de moi. Et je suis restée dans cette posture à ne pas réclamer d'argent et à accepter de subir pendant très longtemps. Jusqu'à temps qu'il y ait une femme formidable qui rentre à notre capital, qui gère le family office d'une belle marque de cosmétiques, qui a dit non, mais la première chose qu'on va faire, c'est déjà on va payer l'heure correctement. Parce que c'est elle qui gère la boîte. Donc voilà, il faut la payer. Et quand on a un peu... fait le ménage là, suite au Covid dans les investisseurs. La première chose et on a fait une procédure de sauvegarde, donc on reviendra sûrement dessus, où j'ai dû porter à bout de bras les choses pendant me séparer de tous mes salariés, me séparer du bureau. Enfin, on a dû faire une cure d'investissement extrêmement dure. La première chose que j'ai fait, c'est vraiment très bien me payer en sortant de ça. Parce qu'en fait, quand tu bosses tout le temps et que t'es en train de faire tu peux pas prendre un taxi, alors que ça te ferait gagner du temps, parce que si, enfin, tu vois, ça a plus aucun sens. Et j'ai fait un coaching, donc c'est gratuit, très sympa. Le consultant dont je parlais tout à l'heure, sa mère, il est accompagné d'une business angel qui est fantastique et qui est dans les RH et qui il m'a dit, mais ta relation à l'argent, elle est fucked up. Donc le premier truc que tu as à faire, c'est assainir tout ça. J'ai fait un coaching avec elle sur l'abondance, la valeur, combien je vaux, combien... Et elle au début, elle était genre, mais vraiment, mais que ça? Non, mais l'or, quand même. Et en fait, j'ai reconstruit ce truc-là de dire, j'ai le droit de gagner de l'argent, j'ai le droit de le dépenser, ça fait pas de moi une affreuse capitaliste. D'ailleurs, si je gagne beaucoup d'argent, je peux créer une fondation. Donc, tous les projets que j'ai sur les bioplastiques de chambre, les trucs comme ça, je pourrais les faire moi-même, sans réclamer de l'argent aux autres. Donc, en fait, ça m'a beaucoup aidé à changer ça. Et donc, ça m'a redonné de l'ambition après.
Merci beaucoup de dire ça. Non, mais c'est canon, vraiment. Et je crois qu'en plus, merci aussi de pointer du doigt là, très légèrement la dissonance qu'il peut y avoir entre gagner de l'argent et monter un projet écologique. Mmh. Parce que ça aussi, c'est...
Mais c'est compliqué. Hein.
T'as un grand écart, quoi, intellectuel.
On a tous nos contradictions. Moi, c'est évident que j'ai une grosse contradiction là-dessus. Et parce que, en fait, pour que mon projet il marche, il faut que les gens achètent des produits. Alors, si tu mets un produit sur le marché, tu mets un déchet sur le marché. Donc, il faut que les gens achètent des futurs déchets. Tu vois, donc, t'es dans une dynamique de base où tu dis, est-ce que le monde a encore besoin de produits? Et si oui, comment est-ce qu'on les réalise? Donc, c'est toujours un questionnement. Mmh. Les circuits de distribution, il y a des circuits de distribution, je ne sais pas, ultra fier de tous les endroits où on est vendu. Il y a des endroits, ça joue beaucoup sur la promotion, sur des grosses campagnes d'échantillonnage. Il y a des concessions à faire. Et par contre, j'en suis consciente. Mais j'assumais pas aussi tout le temps ces concessions-là. Maintenant, je sais quand je fais les choses, est-ce que je le fais parce que je pense vraiment que ça fait avancer le projet? Est-ce que je le fais parce qu'à court terme, j'ai besoin de cash? Pourquoi? Enfin, faut être lucide là-dessus.
Waouh! Tu me bluffes, hein, tu sais, vraiment.
Ah, c'est gentil.
Non, mais c'est pas pour rire. Moi, je me dis, putain, si j'avais su tout ce que tu sais à 30 piges, franchement, je crois que j'aurais été mieux dans ma life. Donc, c'est vraiment hyper, hyper bluffant, vraiment. Bravo pour ça. Et tu me racontais juste avant, effectivement, tu viens de le souligner, là, que vous avez monté une procédure de sauvegarde pour, pendant le Covid. Ta boîte, elle a tremblé un peu.
On en a chié. En janvier 2020, du coup, à ce moment-là, enfin toute la première partie 2020, j'étais 80% en retail. On venait de lancer Sephora en Espagne notamment, toutes les boutiques, 50 boutiques, et 20% en online avec notre site. Il faut savoir que nous, on n'a pas le droit à cause du CBD de faire du Facebook ad, du Instagram ad. On est très bloqué sur AdWords. Tous les outils un peu d'acquisition classiques en e-commerce, on ne les a pas. Donc le site, ça fait 5 ans que je rame pour qu'il sorte de terre, pour avoir du trafic, etc. Donc on était très dépendants du wholesale. Sauf que là, toutes les boutiques ferment. La gamme, elle venait à peine d'être mise en rayon, donc t'es sûr que tu vas pas avoir du rachat avant un moment. Et on avait un de nos investisseurs, dont je parlais tout à l'heure, qui est super, hein, mais qui a aussi beaucoup souffert du Covid. Et il nous avait promis du cash qui devait arriver sur 500 000 euros au global. Donc on écrit le pacte, on signe tout et tout. Et là, l'argent, il n'arrive pas, quoi. Fin mai, on sort du confinement et en fait, non. Et sauf que toi, t'as un trou de caisse de 500K, tu t'en remets pas. Enfin, tu vois, c'est surtout quand ça fait 6 mois que c'est prévu et que du coup, t'as pas été explorer d'autres pistes parce que c'était promis, quoi.
Faut expliquer peut-être un peu aux gens comment ça fonctionne, mais quand ta boîte n'a plus de trésorerie, ouais. À un moment donné, elle est en cessation de paiement.
Exactement.
Donc, t'as pas d'autre choix que de la fermer, quoi. En tout cas, de la mettre en liquidation, quoi.
Ouais. Et donc là, je vois le truc. Quand ils me disent non, le premier réflexe, c'est de dire ok, je repars chercher l'argent parce que c'était ce que je faisais tout le temps. Donc voilà. Sauf que quand quelqu'un d'aussi important, en fait, ne met pas de cash, c'est très suspicieux pour tous les autres. Ils disent comment ça se fait que finalement. Et donc là, j'ai compris au bout de 3 rendez-vous qu'il y avait une perte de confiance qui était trop forte, que le climat à ce moment-là était vraiment pas propice. Et donc c'était soit je fermais. Soit je devais faire une cure d'amaigrissement financière incroyable, quoi. Et moi, il a toujours été inconcevable de fermer, parce que c'est ma vie. Les gens, ils m'ont toujours demandé, c'est quoi ton plan B, ton machin? J'ai jamais eu de plan B. Et je pense que c'est pour ça que mon plan A est toujours sur pied, c'est que j'ai jamais pu me projeter sur autre chose. Donc il a toujours fallu que je trouve des solutions.
Je vais t'inciter un peu à digresser, mais c'est impossible d'avoir un plan B quand t'es à la tête de ta boîte.
Moi, c'est ce que je dis, mais franchement, on me l'a souvent demandé. Non, mais allez, si Ocara ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu vas faire?
Des entrepreneurs qui te demandent ça?
Ouais, mais plutôt agences. des gens qui gèrent des agences.
Oui, donc ils ne savent pas ce que c'est.
Ouais, ils gèrent des gens, mais disons que c'est pas la même.
Ça n'a rien à voir.
Ouais, ça n'a rien à voir.
Ils n'ont pas monté une marque, ils ne savent pas ce que c'est.
Et puis, Ocara, il y a vraiment un combat derrière sur le chanvre, tu vois, sur sa légalisation complète.
Et puis, c'est toi.
Et puis, je suis un peu Ocara. C'est moi qui demande de l'amour, tu vois. Ouais. Je vous aime, il sort pas de nulle part.
Oui, pardon, donc je te faisais digresser, mais donc oui, tu disais que c'était compliqué, donc là, cure d'amaigrissement.
Ouais, et donc là, en fait, donc j'ai la chance d'être accompagnée par un dev qui est super, qui s'appelle Erwan, donc part-time, il est là 3 jours dans le mois, quoi. Et en gros, on se parle franchement, quoi, qu'est-ce qu'on fait, et il faut couper tous les coûts. Enlever les bureaux, déjà ça faisait 3 mois que tu payes des bureaux alors que t'es en confinement. Les salariés, parce que on a une dette qui est monstrueuse envers l'URSSAF, et que s'il y a bien quelque chose sur lequel je veux pas tergiverser, c'est la RH. Donc on va pas commencer à promettre à des gens qu'on va les payer alors qu'en fait on peut plus les payer. Et donc soit tu passes en sauvegarde, soit tu passes en redressement judiciaire, soit si vraiment c'est trop la merde, tu passes en liquidation directe. Nous, on n'était pas au stade de la liquidation parce que on avait quand même encore de la trésorerie, mais juste pour vraiment pas longtemps. Sauvegarde, redressement, en vrai, il y en a un juste. Sauvegarde, ça fait moins peur que redressement, mais redressement, c'est un peu plus protecteur parce que ça te couvre ton passif aussi auprès de l'URSSAF, alors que là, non. On a choisi la sauvegarde et en gros, dans ce cadre-là, j'ai fait ce qu'on appelle des licenciements économiques. Et sauf qu'en fait, j'ai licencié tout le monde. Donc, on était 8. Il restait moi, quoi. J'étais la seule salariée de l'entreprise pendant... jusqu'à aujourd'hui. Je suis encore toujours la seule salariée de l'entreprise. Et on a enlevé les bureaux. On a du coup des créances auprès de gens. Enfin, voilà, c'est tout un bordel, quoi. La sauvegarde, ça dure 6 mois renouvelables. Donc, en janvier, on a décidé de renouveler. Autant on avait... Bon, à ce moment-là, j'avais rentabilisé l'entreprise. Mais... j'avais quand même ce sujet avec mes investisseurs que je voulais régler. Il y avait, un truc dont il fallait que je me libère parce que sinon je pouvais plus avancer. Donc j'ai fait un point très honnête avec eux en disant moi j'avais besoin de récupérer une partie de ma boîte. Un plan de sauvegarde c'est sur 10 ans, donc il est hors de question d'être minoritaire pour gérer ce genre de choses, m'engager sur 10 ans de dette.
On peut peut-être expliquer aux gens ce que ça veut dire, notamment tu vois d'être minoritaire, etc. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où quand tu t'as fait rentrer tellement d'investisseurs dans ta boîte, tu finis toi par... au final, ta part finit par diminuer de plus en plus, en fait, parce que tu cèdes de plus en plus de tes parts à toi, que tu avais au départ, on va dire 100%. Et à la fin, bah, t'es plus chez toi.
Voilà. Et après, il y a des questions de gouvernance. Finalement, j'étais assez libre sur la gouvernance parce que j'ai toujours été un petit ticket pour tout le monde. Donc, il n'y a personne qui se disait, OK, je mets vraiment les mains dans la boîte aux carènes, je regarde ce qui s'y passe.
Après, gouvernance, ça veut dire c'est toi qui.
C'est moi qui décide. Mais ce qui était aussi un sujet, tu vois, c'est qu'en fait, j'étais mal accompagnée parce que comme il n'y a personne qui s'est dit, OK, on va vraiment prendre le sujet en main, bah, j'étais un peu toute seule. Et puis, à plusieurs reprises, on m'avait empêché de faire des produits, notamment l'antidote qui est notre huile de CBD. J'avais déjà voulu la lancer en décembre 2019. Et comme il y a un cadre réglementaire compliqué avec une loi qui s'appelle Novel Food, une réglementation européenne, mais je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus. Mais en gros, on m'avait dit non, trop risqué, on n'y va pas. Et en juin 2020, juste avant de rentrer en sauvegarde, je me dis fuck, moi je veux le faire. Donc on le fait, j'y crois vraiment. Et depuis, c'est notre best-seller, c'est 30% de nos ventes et tout. Donc à ce moment-là, je me suis dit, en fait, ça sert à quoi d'être accompagné si c'est juste pour me retenir de faire des choses. J'ai envie d'avoir les mains libres, j'ai envie de pouvoir avancer. Et donc voilà, on a prolongé la sauvegarde et là je repasse au tribunal mercredi prochain. Et le mandataire, donc on a un mandataire judiciaire qui accompagne le processus.
Qui fait attention, enfin qui gère.
Bon, qui prend l'argent. non, mais il est très gentil. Il a rendu un avis favorable pour qu'on sauve de sauvegarde, etc. Donc normalement, on sort mercredi et j'ai une poignée d'investisseurs super chouettes qui restent et qui va nous suivre dans les prochaines étapes. Donc normalement, on repart. Mais depuis, je suis entourée de freelance. En gros, j'ai revu un peu aussi mon modèle. J'ai enlevé les bureaux, enlevé mon propre appartement. Je me suis entourée de gens que je trouve très compétents, personne n'est full-time. Mais du coup, ça leur permet aussi de s'ouvrir l'esprit sur d'autres sujets, d'autres problématiques. Et puis aussi, qui ont une relation à moi que je trouve beaucoup plus saine que le salariat. Parce qu'ils n'attendent pas désespérant de moi que je leur apporte quelque chose dans la vie. On est plus sur vraiment le côté collaborateur où on confronte des opinions très sereinement. Il n'y a pas, je trouve, ce côté hiérarchique qui peut parfois être frustrant et castrant, je trouve, pour les salariés.
C'est un truc que tu as trouvé, toi, en tant que...
Après, j'avais une équipe à Nantes et une équipe à Paris et je trouve... Enfin, c'était pas du tout les mêmes profils.
Tu crois que c'est en rapport à la province ?
Complètement.
Ok. Pardon, les régions ?
Moi-même, je suis provinciale, tu vois. Donc,
moi aussi, je suis lillois, tu sais.
j'ai jamais vraiment vécu à Paris, mais je trouve... Bon, à Paris, il coûtait beaucoup plus cher, mais plus ambitieux, plus un rapport au côté, allez, vas-y, on se défonce et on veut que ça marche, quoi. À Nantes, on était plus dans un cadre, équilibre vie pro-perso et tout, ce que je peux entendre sur plein de sujets, mais du coup, moins envie de soulever des montagnes et plus dans l'attente que moi je fasse quelque chose. Tout le monde s'est toujours dit, bon alors, elle trouvera une solution. Parce que jusqu'à un moment, j'ai réussi à trouver une solution. À un moment, j'étais triste de leur dire que non, en fait, j'avais plus de solution là, pour eux.
Mais surtout, t'as des hernies discales.
Et surtout, ouais. Mais... J'ai fait la deuxième après m'être séparée de ma dernière salariée en septembre 2020. Un œuf. Je te jure, je me suis tournée pour mettre la coquille à la poubelle. Et là, pff, le dos qui pète. Ouais.
Tu sais que j'ai eu mal au dos pendant ces 7 dernières années et que c'est depuis que j'ai vendu Mademoiselle que j'ai plus mal au dos.
Ça soulage.
On en a plein le dos.
Ouais. Ouais, je crois jamais. Mais là, je me suis fait opérer en novembre. J'étais arrivée à un stade où j'avais perdu une partie de mon releveur de pied. Je ne pouvais plus me mettre sur le demi-pointe de la jambe gauche, ce qui est très délicat quand tu fais de la danse.
T'as que 30 piges en plus. Hein.
Ouais, et j'ai mon deuxième orteil là que je ne sens pas très bien. C'est pour ça qu'il est toujours tordu, d'ailleurs. Et là, en m'opérant, ils m'ont dit, bon, peut-être tu retrouveras des sensations, mais pas tout, et j'ai pas tout retrouvé. Donc j'ai un orteil que je sens pas trop. Mais ouais, ça laisse... C'est pour ça que quand tu dis, ah, t'es pas de nature stressée et tout, il y a quand même des séquelles, tu vois, le stress, il se manifeste de plein de façons différentes.
Le dos, c'est chiant.
Ouais, le dos, c'est super chiant.
Il y a plus simple. Tu vois, les intestins, par exemple. C'est chiant, non. Alors, pour le coup, c'est chiant au premier sens. Mais ça te flingue. Enfin, c'est moins violent pour la santé, quoi.
Mais là, du coup, le fait, tu vois, je me suis fait opérer en novembre. J'ai beaucoup de yoga. Et là, le fait de ne plus avoir de chez moi, d'avoir une relation beaucoup plus, je trouve, saine avec mes équipes, de prendre plus de temps pour moi, j'ai pas eu de nouveau mal au dos, quoi.
Donc tu me parlais justement que tu avais profité de tout ça pour te réaligner.
Bah oui.
Qu'est-ce que ça signifie ?
En fait, après 10 ans passés à Nantes, où je me suis dit, j'ai l'impression que je vais rien construire sur les 10 prochaines années. C'était pas. Bon, après, moi, pendant toute ma boîte, même, ça fait 10 ans, je suis seule, enfin, j'ai pas de mec, j'ai pas de gosse, j'ai pas. Voilà, je suis assez. Bon, d'une nature de base indépendante, mais je pense que je me suis aussi mis des barrières. Et là, je
veux dire que t'as empêché de faire rentrer des gens dans ta vie.
Je pense.
Ça fait un peu le vide autour de soi, hein, de consacrer toute sa vie à un projet. Quoi.
Ouais, ça fait peur. Déjà, ça fait peur à des gens.
Ah oui. Ça... Bah déjà, de base, si t'es un mec salarié, tu vois, vois une nana en face de toi qui travaille autant, tu l'as.
Oh. Ouais, moi, j'ai un mec une fois, il m'a dit, mais il n'y a pas de place pour moi dans ton agenda. Et je dis, bah si, regarde là, hop, on déplace là, tac, le créneau call, il passe ici. je veux pas te côté
de 18h30 à 19h, j'ai un moment pour toi, voilà.
Oui, donc je pense qu'il y a de ça. Après je trouve aussi, Marion en parlerait sûrement mieux que moi, mais qu'on est dans une période qui est compliquée sur les relations femmes-hommes, où on a tout ras-le-bol de l'hétéronormativité. Et on attend des hommes des choses qui ne sont pas encore prêts psychologiquement à nous donner. Et nous, dans le fond, on attend aussi encore un peu qu'ils soient dans certains rôles. Ouais. Enfin, tu vois, il y a un problème sur cet équilibre-là. Et donc, je pense que ça n'aide pas du tout, parce que moi, les mecs qui me plaisent, qui sont entrepreneurs, en fait, ils ne veulent pas du tout être des meufs entrepreneuses. Ils veulent être avec des mannequins, des nanas qui restent à la maison, enfin, tu vois, d'autres profils qui ne sont pas du tout mon profil. Donc, on a un problème d'alignement.
Tu peux peut-être te reconvertir.
Oui, oui, alors mannequin, j'ai abandonné depuis longtemps. Et femme à la maison, je te jure que ce n'est vraiment pas mon truc. Donc, non, il faut juste que je change de centre d'intérêt. Il faut que je trouve des mecs différents qui m'intéressent.
Ouais.
Mais,
c'est hyper intéressant, hein, ce que tu dis sur ce rapport entre les femmes et les hommes. Et notamment dans ta génération, je crois qu'il y a un truc à 30 piges où, bah, justement, tu as aussi ce truc de à 30 ans, bah, comme tu disais, j'ai rien construit. Tu vois, donc à 30 ans, tu as envie de construire, tu as envie de cocher plein de cases dans ta vie, etc.
Ah
ou
oui,
pas d'ailleurs. Tu vois, c'est...
Avant de partir de Nantes, j'ai pris toutes les documentations des projets en VFA. Qu'ils étaient en train de lancer, c'est les... T'achètes un appartement sur plan.
Ok.
Alors que moi, je venais tout juste d'avoir un peu d'argent, parce que ça y est, je commence à me rémunérer. Et directement, je me dis, vas-y, j'achète un appartement à Nantes. J'ai aucunement envie de rester à Nantes. Mais tu sais, t'as ce truc, je sais pas, la nidification qui commence à arriver. Et au bout d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce que je m'emmerde avec ça? Moi, j'ai envie de vivre n'importe où. Donc, ouais, mais ça me trotte encore en tête. Je me dis, est-ce que j'achète un appart à Lisbonne? Est-ce que j'achète un appart à Paris? Paris, je peux pas, parce que ça coûte trop cher. Un moment, envie de se poser et de s'ancrer quelque part, quand même.
Ce que je peux comprendre. Ok. Wow. Et depuis, ça va mieux. T'as une relation beaucoup plus saine à ton taf, à ta boîte.
Déjà, je gagne mieux ma vie, donc ça va beaucoup mieux. Ça, franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais être un peu confortable financièrement, ça te change la donne. Enfin, maintenant, là, tu vois, comme j'ai plus de chez moi, je voyage, je vais dans des Airbnb, dans des co-living, chez des amis, etc. Je suis pas constamment en train de regarder les 3 euros que je vais économiser sur chaque nuit ou les billets d'avion. Je vais prendre celui qui est direct parce que je vais pas m'emmerder à. J'ai besoin de sommeil, j'ai besoin de. Enfin, sur la bouffe, je peux enfin acheter des trucs cool, bio, comme il faut, mieux manger. Enfin, voilà, avoir un minimum de confort financier, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même la base pour avoir l'esprit un peu plus apaisé. Donc ça c'est mieux, et puis surtout cette ouverture d'aller visiter plein d'endroits, de rencontrer plein de gens, ça a changé un peu la donne. Et maintenant que j'arrive à avoir des gens top en termes d'équipe avec qui ça roule sur long terme, c'est parce que c'est du freelance que c'est instable forcément. Ma graphiste, alors on est passé freelance salarié puis de nouveau freelance, ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble, donc on se connaît bien, on est efficace. Donc j'ai gagné en efficacité, je pense. Avant, je perdais beaucoup de temps à faire du présentiel dans les bureaux pour rassurer les gens sur le fait que j'étais là. Des réunions à n'en plus finir qui servent à rien. Maintenant, je cale des zooms, tu vois. Ça a quand même ce bon truc de faire gagner du temps. Donc j'ai récupéré beaucoup de temps pour moi. Et maintenant, je sais qu'en fait, au-dessus de 50 heures par semaine, je suis pas efficace. Donc,
ce qui est déjà bien, 50 heures par semaine. Hein.
Bon, 50 heures, c'est mon rythme croisière. Là, je suis bien. À partir de 60, je suis en surmenage. Donc ça sert à rien d'aller au-dessus. Et oui, et je sais que sur la fin 2019, je faisais plus. Du coup, tu dors peu, tu fais beaucoup de sport pour essayer de déculpabiliser. Tu picoles pas mal parce que tu essayes d'oublier. Enfin, il y a quand même un cercle un peu vicieux. Je pose 50 heures semaine. Je vois la mer très souvent. Je fais de l'apnée, je fais de la danse, je fais plein de trucs. Et donc ça me permet de retrouver une forme d'équilibre.
Trop bien. Franchement, bravo. Il y a aussi Est-ce qu'il y a un sujet dont je t'ai pas causé, dont t'aurais aimé parler?
On n'a pas du tout parlé du chanvre, du cannabis, parce que
Oui, c'est vrai.
Tu te demandais.
Bien sûr.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Bah oui.
Non, mais peut-être pour expliquer pour les gens qui se demandent, parce que le mot CBD, c'est un peu le nouvel acronyme qu'on entend partout.
Les gens savent pas ce que c'est en plus.
Non. Enfin, je dis non de manière très.
Non, mais
il y a des gens qui savent.
J'étais hier soir à une soirée et tu vois, j'ai une personne que je connais qui me dit c'est qui ta prochaine invitée, je parle de toi, tu vois, je lui dis bah elle a monté des produits avec du CBD dedans, tu vois, et elle dit c'est quoi, j'ai fait voilà, c'est trop loin maintenant. Pardon,
mais c'est toujours la difficulté en tant que marque, est-ce que tu sursimplifies pour quand même que les gens comprennent, mais au risque de vraiment un peu trop simplifier et raconter n'importe quoi. Si vous avez 3 minutes devant vous, en gros il y a cette plante qu'on appelle le cannabis ou le chanvre, elle a une fleur. Quand on fume, ce qu'on fume, c'est la fleur de chanvre, la fleur de cannabis. Cette fleur, elle contient plein de molécules différentes, dont une famille qu'on appelle les cannabinoïdes. Il y a plus de 120 cannabinoïdes. Celui dont on parle tout le temps, c'est le THC, parce qu'il est psychotrope, donc ça veut dire qu'il perturbe les sens, il défonce. Mais derrière, tu as le CBD, CBG, CBN, CBV, etc. Tu en as plein d'autres, qui eux ne sont pas psychotropes, donc tu peux continuer à conduire, tu te comportes normalement, mais ils sont psychoactifs. Par exemple, la caféine, la théine, c'est psychoactif, ça te booste, et bien le CBD, il fait l'inverse, il te chill, il te relaxe. Et donc le CBD, nous on aime bien l'utiliser avec les autres cannabinoïdes, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet d'entourage, donc ils sont plus efficaces quand ils sont tous ensemble, plus de synergie. Donc en fait, il y a rarement du CBD pur. On travaille en broad spectrum, c'est compliqué, je ne passerai pas trop de temps là-dessus, mais en tout cas on travaille avec les cannabinoïdes ensemble et pas que un isolat de CBD. Et en fait, moi, cette famille de molécules, je la trouve super, mais il y en a plein d'autres qui sont super. Les terpènes, c'est les molécules olfactives, donc que tu retrouves dans les huiles essentielles, qu'on retrouve dans tous nos produits. On va utiliser l'huile issue des graines, qui sont très riches en oméga-3, bonnes pour la peau, bonnes pour le corps. On va utiliser les canaflavines qui sont dans les tiges, qui vont booster l'éclat de la peau. On va utiliser la fibre des tiges. Voilà, donc on va utiliser toute la plante. Mais ce que les gens achètent aujourd'hui, c'est soit majoritairement des fleurs à fumer, c'est 60% du business du CBD aujourd'hui, et, alors qui sont vendus comme fleurs à tisane, parce qu'on n'a pas le droit de dire fleurs à fumer, y a pas, c'est toujours ce problème de réglementation. En tout cas, voilà, c'est ça qui est le plus vendu. Ensuite, il y a les huiles. Et nous, on a donc un produit qui s'appelle l'antidote. C'est une huile que tu mets sous la langue, une huile au CBD, qui vient t'aider à mieux dormir, te relaxer, apaiser certaines douleurs, même si la frontière avec le médical est toujours compliquée à gérer. Nous, on sait, voilà, il y a pas mal de nanas qui utilisent notre produit pour les douleurs liées aux règles. Même si moi, je ne peux pas le revendiquer, c'est un fait, c'est pour ça qu'elle l'utilise. Et ensuite, t'as les cosmétiques. Et finalement, les cosmétiques, dans le business du CBD, c'est encore très anecdotique. Mais moi, c'est par là que je suis rentrée, parce que c'est cette vocation de soin, de soigner. Mais on fait de la tisane, on a des huiles essentielles, on n'est pas focus sur la peau, quoi. C'est vraiment le bien-être au sens large.
Et ton cheval de bataille de cette année, c'est le clito.
Exact. Ah oui. C'est ce que j'ai un handle sur Instagram qui est... Clitoris and Cannabis Activist, depuis longtemps. Et je n'avais pas encore trouvé comment le mettre dans la marque. J'essaye tous mes petits combats de vie.
Comment tu étais activiste du clitoris avant?
C'était une version un peu provocatrice pour dire c'est féministe, quoi. C'est ce côté défendre le droit des femmes. Et en fait, plus je vieillis, plus le désalignement sexuel entre les hommes et les femmes m'agace au plus haut point. Plus je me rends compte qu'on est vraiment là pour servir leur désir sexuel, et ça m'épuise. Et en fait, de tomber sur des mecs hyper intelligents, mais qui sont encore dans ces trucs-là.
Et c'est un vrai sujet. Hein.
J'en peux plus.
Surtout les mecs élevés au porno, quoi.
Bah ouais, mais même les meufs, en fait, c'est que nous aussi, on est élevés comme ça. Donc nous-mêmes, on se met dans cette posture de base de dire, bah, j'accepte une forte domination, j'accepte que mon plaisir commence seulement une fois que le sien s'est terminé. Enfin, et tout ça, on est conditionnés là-dedans. Et en plus, on tombe sur des mecs en face de nous qui font rien pour nous sortir de ça. Et en fait, plus je vieillissais, plus j'en avais marre, et je me suis dit, mais j'ai pas le temps de les éduquer, en fait. C'est pas mon rôle. Et je me suis dit, je vais le mettre en description. Comme ça, si t'as pas compris. Si t'as pas compris l'intérêt du clitoris, je l'ai écrit. Et si t'es encore dans un truc phallocentré, tourné uniquement sur la pénétration et tout, casse-toi, quoi.
Et donc après, pour les garçons qui savent pas où c'est le clitoris, je vous invite à regarder sur internet, il y a des schémas qui sont plutôt bien faits.
Oui, tu vois, pendant longtemps, je me suis dit, le problème, c'est moi. Non, en fait, le problème, c'est pas moi. Mais comme on n'en parle pas.
Tu veux dire sexuellement, c'est ça?
Non, mais oui, le fait de. C'est compliqué pour jouir sur une simple pénétration pour une femme. Et en fait, on s'est rendu compte avec les copines qu'on s'en parlait assez peu de ça. Ça a mis du temps qu'on essaie de dire, non, moi, si c'est une simple pénétration, non, j'ai pas d'orgasme. Et on dit, pourquoi on se l'est pas dit avant, tu vois? Parce que même les magazines qui te disent il y a les vaginales et les clitoridiennes, et bien tout ça, bon, évidemment là on a l'impression d'être des mammouths quand on raconte ça, mais c'est pas la préhistoire en fait. C'est, il y a encore 3-4 ans, on parlait pas du tout de ces sujets-là.
Pourquoi tu... Non, au contraire, pour moi c'est encore. C'est pas des mammouths pour moi.
Mais je suis trop.
C'est pas encore assez ancré. Hein.
Ouais.
Et notamment, tu vois, dans ta génération ça vient, moi je date un peu des meufs de 40 ans, c'est pas aussi simple, hein, ouais. Tu vois.
Et bon, après, je suis tellement dans une bulle sur tous les comptes que je suis, les sexos et tout, que je commence à passer un cap.
Après, j'ai la génération d'après, ma fille qui a 15 ans, elle, en revanche, elle est au courant. Hein.
Ouais,
vraiment, elle a les bails. C'est comment ça marche.
Ça me rassure.
C'est très cool. Hein. Ça va dans le bon sens.
Ouais, ça va dans le bon sens. Après, quand tu sais maintenant que le premier porno est visionné à 9 ans, t'es là genre... Ça risque d'être une génération si compliquée. Et donc, je me suis dit, vas-y, on l'écrit, on n'en parle pas assez, il faut en parler. Donc, moi, c'était plus voilà, aussi un sous-entendu sur la sororité, sur le fait de se soutenir entre femmes entrepreneurs, parce que quand tu fais la tournée des investisseurs, tu te sens très seule en tant que femme. Et les remarques que tu te prends parfois, tu as l'impression de... Enfin, ouais, je me suis quand même assez vite rendu compte que si j'avais été un mec, ça aurait été plus simple. On aurait eu plus confiance en moi, on m'aurait plus donné les clés, quoi.
Si tu crois que si t'avais été un mec qui était venu avec ce produit-là,
ouais.
Ça aurait été plus simple.
Ah oui.
Ok.
Ouais. Et puis alors, on va l'appeler Michel, mais
bonjour Michel.
Michel qui voulait pas me payer. En fait, lui, ce qui le plaisait, il a pas du tout aimé quand je l'ai transformé la main en mixte. Lui, ce qu'il aimait, c'était cette femme au service des hommes, quoi, qui fait du bien à la peau des hommes.
À l'ancienne.
Ah oui, non mais.
Tellement.
Ah, mais
ça sent bon la gauloise, quoi, tu vois, quand tu me dis comme ça, je suis une bonne gitane, quoi, tu vois.
Et ouais, il y a un truc, enfin, ouais, ce sexisme-là qui me sortait par les yeux. Donc voilà, je l'avais, ça faisait plusieurs années que ça traînait sur mon profil de plein de façons différentes. Et puis, je m'étais dit, bah, comment mettre ça dans mon combat avec Ocaran autour du cannabis? Et en fait, aux États-Unis, il y a les premières marques les marques de CBD. Elles sont arrivées avec trois typologies de produits, tout ce qui est fleurs à fumer, tout ce qui est huile et tout ce qui est produit lié à la sexualité. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et parce qu'en effet, le CBD, le CBG et d'autres cannabinoïdes aident à la fois à la vasodilatation, aident à réduire la friction, la douleur, etc. Et c'est juste que, en fait, nous, on a une vision qui est très silotée du soin. Donc, si tu es un expert contour des yeux, tu ne peux pas faire des produits pour les coudes et encore moins des produits que tu ingères, tu vois. Et le cannabis a ce truc incroyable de péter tous ces trucs-là, de dire en fait non, je suis une marque holistique, je peux être légitime sur toutes les verticales. Ça m'a mis un peu de temps avant de sortir. Je me suis dit déjà, on fait les sérums, on fait les crèmes. Enfin, les distributeurs nous regardaient déjà de travers avec le cannabis. Je dis, on va pas tout de suite arriver avec un produit sex care. Et puis à un moment, je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est le bon moment. Donc on a fait cette huile, l'huile libertine.
Pourquoi c'est le bon moment ?
Parce que j'avais suffisamment de produits, parce que ça commençait à rentrer dans la tête des distributeurs que le soin, la sexualité, c'est du soin. Les premiers rayons dédiés aux femmes, tu vois, avoir des huiles lubrifiantes chez Sephora il y a 2 ans, c'était pas un sujet, quoi, c'était pas possible.
Il y en a aujourd'hui, c'est ça ?
Bah, nous.
Ah, ok.
Mais ils ont sorti les tampons de chez Gina une année avant. Enfin, tu sentais que ça commençait à arriver, les comptes sexo.
Tampons de Gina, c'est les tampons en coton bio, c'est ça ?
Ouais.
Okay.
Mais ils ont arrêté depuis. C'était même dans le groupe My Little Paris.
Ok.
Et en tout cas, il y avait une. Ça y est, ça fait 2-3 ans que. Bah, évidemment, un compte comme Ta Jouit d'Oramuto, ce genre de choses-là, bah, c'est récent, en fait, finalement. Donc, il fallait. J'avais besoin que là. On ne peut pas être pionnier dans tout. Et le CBD, j'ai déjà essuyé des plâtres. On avait monté le syndicat pour ça. Enfin, c'est tout un bordel de lobbying. Je m'étais dit, là, il faut qu'on s'inscrive dans une vague, quoi.
Trop bien. Et donc, ça marche ?
Bah, c'est un de nos meilleurs produits.
C'est vrai. Étonnant.
Ouais. Ben oui, parce que ça répond à un vrai problème. En fait, c'est ça, la clé pour une marque, c'est quand même de répondre à des problèmes. Parce que si tu fais des produits juste pour faire joli, ça dure pas longtemps.
Trop bien. Quelle joie, vraiment. Et je t'ai rencontré donc par l'intermédiaire de Marion. Je vois que très régulièrement, tu invites des influenceuses cool à venir visiter
les
champs et tout. C'est une vraie volonté aussi, c'est ça, de faire. Enfin, tu les utilises entre guillemets, avec
au
meilleur sens du terme, pour faire de la vulgarisation, c'est ça ?
C'est ça. En fait, bah, nous, comme je te disais, on n'a pas accès à Facebook, Instagram, Ad et compagnie. Donc, en fait, si on veut toucher un maximum de gens, il faut qu'on s'appuie sur des gens influents qui ont une capacité, eux aussi, à partager un message. Donc moi, je ne suis pas fan de l'influence pure, c'est-à-dire des personnes, des femmes sandwich, tu vois, qui représentent juste des marques. Donc j'essaye de trouver des gens qui savent raconter des histoires et qui aiment partager des points de vue. Et c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de Marion, parce que... Enfin, bon, elle est scénariste de base, donc elle, tu sens qu'elle a ça, mais vraiment, elle t'embarque, quoi. Et elle s'est passionnée sincèrement pour le sujet. Et donc, on a fait un voyage de presse dans les champs de chambre l'année dernière, en juin. C'était génial. Du coup, on l'a refait là, en juin, de nouveau. Et en fait, à chaque fois, c'est des nouvelles découvertes. Puis même, elle m'apporte toutes des points de vue sur des produits auxquels j'aurais pas pensé, des insights sur le chanvre qui sont assez incroyables.
Et elle te nourrisse aussi.
De dingue. Et notre chanvrier Pierre-Yves, on travaille avec plusieurs chanvriers, mais Pierre-Yves Normand en l'occurrence, mais il est incroyablement fan des filles qu'on ramène. D'ailleurs, il a une portée de chatons et il a décidé de les appeler, ils sont 5, Marion 1, Marion 2, Marion 3, Marion 4, Marion 5. Je te jure.
Énorme fan.
Ah oui, non, mais là, quand je lui ai dit que Marion revenait, c'était... C'était quelque chose. Quoi.
Mais je vous mettrai un lien dans les notes parce que Marion a aussi fait pour toi une série de vidéos qui est complètement dingue.
Mais elle est
sur les paradoxes.
Elle est incroyable. En fait, quand on a lancé l'huile libertine, la question c'est comment est-ce que tu parles de ce produit ? Est-ce que tu vas dire c'est une huile intime, anale, vaginale, orale ? Enfin, y a un truc qui est quand même pas simple à aller attraper. On ne peut pas faire de démonstration vraiment claire du produit, contrairement à un gel nettoyant pour le visage. Et puis, moi,
tu vas avoir du mal à le mettre sur Instagram. C'est pas sur les mêmes sites.
Et puis, la raison pour laquelle j'avais créé ce produit, c'était pour parler de sexualité, libérer la sexualité. Je voulais absolument qu'il soit comestible pour mettre en avant le cunnilingus. Et du coup, la question, c'était vraiment, voilà, comment on l'aborde ? Et Marion, carte blanche, elle me dit, elle va faire une série sur les paradoxes autour de la féminité. Mais je te dis, elle est à chialer, cette série. Mmh. Les nanas se retrouvent incroyablement dedans. Je pense que les mecs aussi retrouvent des choses dedans. Et est-ce que ça vend des produits ? Non. Est-ce que ça me fait kiffer ? Oui. donc c'est ça que j'aime. Voilà, c'est ça que j'aime faire, c'est raconter une histoire avec des gens.
Ok. Bon, je vous mettrai les liens si vous voulez aller voir. Et si vous voulez en profiter pour acheter des produits.
Oui, vous pouvez aussi acheter des produits si vous voulez.
Écoute, merci beaucoup, Laura. C'était vraiment canon. Ça m'a fait vraiment plaisir. Puis bravo pour ton chemin. Vraiment, je te dis, tu me bluffes. C'est très cool.
Merci. À bientôt.
Je vous mettrai tous les liens si vous voulez aller voir. Suivre Laure sur les Instagram. Et puis aussi le ocarine.com, quoi, c'est ça ?
Oui, ocarine.com.
À plus. Au revoir. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez « Histoire de succès » directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.